soir, nous avons la chance de recevoir William Christie. Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique. Et figurez-vous, non, pas avec du baroque, mais avec Aretha Franklin.
Oh.
Alors, je savais que ça vous ferait plaisir.
Oui, je pousse un grand ouf de plaisir, voilà. Mais c'est elle qui, vous savez, fait ce qui est merveilleux aux États-Unis, qui était très évident quand j'avais 20 ans, 19, 20 ans, c'est que, oui, j'étais déjà un petit peu engagé dans cette voie baroque, mais la musique, disons, de tous les jours, était irrésistible. J'arrive à Tanglewood en 66, je crois, en 64. On me dit, ah, mais c'est merveilleux, on peut t'écouter pour un lunchtime concert à Tanglewood. Et voilà, et le soir, nous pouvons aller ensemble écouter Janis Joplin. Oui, c'est pas mal, ça.
Et oui, entre les deux, vous n'avez pas choisi ni Janis Joplin, ni Aretha Franklin.
C'était tout à fait normal. Fait que et là aussi, ce qui était opérationnel, c'est qu'on pouvait reconnaître le grand talent dans ce milieu. Aretha étant, pour le gospel et le soul, absolument la reine incontestable, comme Janis aussi avait évolué un art qui était unique, personnel et de grande envergure. C'est une musique qui meublait effectivement ma vie, encore en fait. J'étais évidemment comme des millions peut-être de fans. Quand elle est morte, c'était vraiment la fin de quelque chose de très extraordinaire, oui.
Mais je vous imagine William Christie en train de danser sur Aretha Franklin ou Janis Joplin la nuit. Oui. Et j'imagine la révolution que ça a dû être d'écouter ces deux voix de femmes extrêmement puissantes et érotiques et novatrices à leur manière. Parce que dans votre enfance, si j'ai bien compris, la musique tenait une part importante, mais c'était plutôt Aïda. Que faisait votre arrière-grand-mère pour vous dire que c'était l'heure de
Aïda,
la table
Aïda, ou Aïda, était le prénom de maman. Julia était la grand-mère, Mabel était l'arrière-grand-mère, et toutes les trois, en quelque sorte, la pépinière, disons, musicale.
Tout le monde jouait de la musique. La mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère.
Oui, tout à fait.
Donc vous ne pouviez pas faire autre chose?
Ben si. Si, mais simplement, elles étaient assez convaincantes. Ma mère surtout, parce que suite à un nombre de quelques tragédies, disons, familiales, elle ne pouvait pas réaliser ce qu'elle aurait pu faire comme, à mon avis, grande carrière de musicienne. Arrachée de l'université, elle, l'aînée de 6 enfants, puisque ma grand-mère est partie, un peu romanesque aussi, la grand-mère paternelle qui a reconnu assez vite que j'étais un tout petit peu spécial sur le plan musical et horticole aussi. Et puis cette arrière-grand-mère, Mabel Hibbert, qui était la maman de mon grand-père paternel, elle était impresario. C'est-à-dire, elle a une rare diplômée d'une académie de musique juste après la guerre civile, la guerre de sécession aux États-Unis, qui a vécu un bref moment avec Monsieur Christie, juste le temps de concevoir mon grand-père, et puis elle est partie pour suivre, vivre ses rêves. Une aventurière extraordinaire, mais quelqu'un qui était encore très verte. Quand j'avais 7-8 ans, et qui m'adorait. Vous imaginez, pour le Thanksgiving, qui est notre fête nationale, grand-mère, donc cette arrière-grand-mère, arrivée dans le salon à côté de la salle à manger, elle s'est mise au piano et elle jouait pour que tout le monde, n'est-ce pas, s'installe autour de la table pour le Thanksgiving, la grande marche triomphale d'Aïda au piano. Folklorique.
Donc vous n'avez jamais appris la musique, vous êtes né dedans.
Dans un sens, oui.
Et ce bain de musique, vous auriez pu décider de vous en éloigner. D'ailleurs, c'est ce que vous avez fait à un certain moment, parce que je crois que vous vouliez devenir scientifique au départ.
Oui, mais c'est-à-dire que là, je crois que ça, c'était l'ultime intelligence de ma mère, elle a su que ce serait elle pour m'amener au seuil. Mais elle savait fort bien aussi, je crois que, oui, qu'elle pouvait bien dégoûter, effectivement, son jeune sujet aussi, avec une insistance trop, tout simplement. Et quand elle a vu que j'étais tout simplement prête à dire « Non, maman, c'est assez de musique », j'étais mis dans les mains très compétentes de quelqu'un qui n'est pas de la famille, une vraie prof de piano, quoi. Donc, elle avait, sur le plan psychologique, je crois qu'elle était assez astucieuse.
Mais finalement, ce n'est pas du tout votre famille, ni votre arrière-grand-mère, ni votre grand-mère, ni même votre propre mère qui vous ont amené véritablement à faire de votre vie une vocation musicale, William Christie. C'est vous, en tant qu'étudiant, qui avez été tout d'un coup ébahi par la musique.
Oui, mais avec l'idée, c'est que, voilà, j'étais tout simplement mis devant un phénomène, la musique, qui est devenu tout simplement incontournable. Je me souviens de jouer de l'orgue, j'avais peut-être 12, 13 ans, dans notre petite paroisse protestante, et je me suis dit un jour, la musique c'est une amie. C'est un ami. En tout cas, la musique peut meubler ma solitude. Et ça, à cet âge-là, c'est très important.
Vous étiez un enfant solitaire ?
J'étais très... les deux. J'adorais la compagnie des autres, mais j'avais... ce qui m'a distingué aussi, je crois que c'est la musique, n'est-ce pas ? J'aimais énormément ma solitude. Oui. énormément. Mais comme aujourd'hui même.
Et quand vous jouez aujourd'hui, vous retrouvez cette solitude qui vous est essentielle ?
Quand je suis seul, oui. Oui, oui. Mais je vis évidemment une vie à plusieurs, enfin, depuis toute ma carrière. J'ai un rôle fédérateur, un rôle de rassembleur. Hein. Oui, et j'aime ça aussi.
Il y a une expression en français qui dit « faire de la musique ».
De faire de la musique.
Ça veut dire quoi pour vous, William Christie, faire de la musique ?
Mais on fait de la peinture, on ne fait pas de la poésie. Faire de la musique, puisqu'il y a un élément qui est très physique là-dedans. On gratte, on tape, de faire un métier, oui, de faire un métier. To make music. Est-ce qu'on dit la même chose dans d'autres langues ? Fare la musica. C'est-à-dire, il y a l'acte physique, effectivement. Voilà.
Est-ce qu'on peut écouter la propre musique qu'on produit ? Puisque vous êtes non seulement chef d'orchestre, non seulement le père des arts florissants, mais vous êtes aussi interprète de plusieurs instruments.
Évidemment, évidemment.
Est-ce que vous pouvez écouter ce que vous produisez quand vous faites de la musique ?
Oui et non. Il y a des moments où je dessine une phrase musicale, je crée un dialogue, ou je crée un petit monologue, parfois, un dialogue parfois avec un autre musicien. Est-ce que là, je m'écoute. Il y a d'autres moments, j'écoute les autres. Mais c'est une bonne question. Oui. Est-ce qu'on s'écoute en faisant de la musique ? Oui et non. Physiquement, c'est parfois très difficile de faire les deux, n'est-ce pas ? Mais d'autres moments, oui, c'est dans l'imagination. On crée une ligne, on crée le canevas. Je vois la musique parfois, comme j'écoute. C'est complexe comme question et comme réponse.
Entre le petit garçon qui jouait seul à l'orgue et le père des arts florissants qui fête maintenant ses 40 ans, y a-t-il similitude, sédimentation d'expérience ou exactement le même esprit et la même passion ?
J'ai un fond de contentement. Ça, c'est incontestable.
De contentement ou de joie ou de jubilation ?
De contentement dans tous les sens. Parfois, d'une sorte de... d'ivresse, oui, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce que j'ai pu faire. Mais c'est mélangé aussi avec ce que j'appelle les moments noirs aussi. Si on a les problèmes de, tout simplement, de doute, je parle de soi-même, si on a toujours les problèmes de reconnaissance de sa propre reconnaissance de sa propre valeur, est-ce que toujours ces moments de panique par moment, toujours les moments d'incertitude, est-ce que ça va être vraiment ce que je veux vraiment, est-ce que je peux, ça n'a pas changé. Ça veut dire que je reste aussi à un stade où disons à une évolution, un développement psychologique, n'est-ce pas, que j'avais quand j'avais 20 ans.
Mais peut-être cette inquiétude est-elle le fer de lance, justement, de la reconnaissance que vous avez instituée en France, notamment dans le domaine du baroque. C'est-à-dire que, sans arrêt remettre en cause, vous n'êtes pas du genre à vous auto-célébrer. Mais je voudrais parler d'un souvenir qui, tout d'un coup, me revient. C'était il y a quelques années, il y a très peu de temps, à l'Opéra Comique un soir. Vous êtes revenu, mais vous n'étiez pas dans la fosse, vous étiez dans le public. Et vous avez parlé très brièvement, mais vous avez quand même évoqué ce retour à la vie civile, c'est-à-dire la vie musicale, puisque c'est votre vie civile à vous. Et vous avez évoqué brièvement une traversée d'une maladie qui avait été manifestement très importante. Et nous tous qui étions ce soir-là à l'Opéra Comique, nous avons été très émus parce que nous avons ressenti quelqu'un qui revenait dans son bain de musique, dans son territoire vivant.
Oui, C'était un moment extraordinaire pour moi, puisque ce petit problème de l'ordre cardiaque m'est arrivé au Staatsoper à Vienne. Avant une répétition, je savais que quelque chose ne marchait pas. J'arrive à l'opéra, il y avait une charmante assistante là, et j'expliquais ce que j'avais ressenti physiquement. Elle me dit « Ouh là 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 !» Elle m'a dit « Mon partenaire dirige le grand hôpital ici à Vienne, le Allgemeine Krankenhaus Wien. » Et on a déjà eu ce problème avec quelqu'un d'autre il y a quelques années. Écoutez, c'est très simple. Votre assistant peut prendre la répétition, mais on va vous envoyer, n'est-ce pas, tout simplement pour voir les urgences cardiaques. J'ai trouvé ça un tout petit peu à la fois rassurant, mais un petit peu inquiétant. Alors là, j'étais assez surpris par l'efficacité, le lieu, mais efficacité, je dirais, et je crois que c'est un mot apte et approprié, de certaines structures européennes. J'explique. J'ai vécu une batterie de tests, d'examens, et la dame m'a dit, écoutez, ça va, mais ça va pas. Je crois qu'il faut aller plus loin. On va tout simplement vous faire un petit examen un peu approfondi. Ce qui était fait. Et le monsieur me dit, qui a fait cette petite intervention, il y a des mauvaises nouvelles. Votre cœur est malade. Il faut opérer. Mais il m'a dit, la bonne nouvelle est celle-ci. Nous avons une équipe parmi peut-être les meilleures en Europe en ce moment, et ils sont au chômage technique ce soir, puisqu'ils devaient faire une transplante cardiaque, et le cœur n'est pas arrivé. Donc, on peut vous opérer. Alors, je dis, mais je suis en Autriche, et je suis français, et j'habite Paris, et il me dit, mais ben non, nous sommes en Europe, cher monsieur. Et en effet, vos assurances et tout ce que vous avez comme couverture médicale, ben, n'est-ce pas, nous sommes l'Europe. Un coup de téléphone, n'est-ce pas, en France, et tout sera arrangé. Je ne pouvais pas croire mes oreilles. Mais voilà. Le lendemain, après l'opération, je me réveille après cette anesthésie un peu importante et je rencontre le chirurgien et une flopée de gens autour de mon lit. Il y avait une dame, par exemple, et t'as jamais entendu cette histoire? Mais c'est quand même, c'est la pure poésie. La dame se présente, Herr Doktor, non, Frau Doktor, très, très germanique, très, très, très autrichien. Et c'était la chef anesthésiste. Elle me dit, oh, quand j'ai su que c'était vous, je suis allé dans mon armoire, et j'ai pris mes quelques enregistrements de vous, et on vous a écouté en vous opérant. Avec une sorte de trémolo dans la voix. Voilà, ça, c'était...
C'est pour ça que ça a réussi, peut-être, l'opération.
Mais écoute, c'était merveilleux. Et puis, Andreas Zuckerman, ça continue, puisque...
Et qu'a-t-elle écouté avec son équipe médicale en train de...
Je n'ai même pas posé
cœur.
La question.
Vous n'avez même pas demandé.
Non, moi j'ai pleuré, tout simplement. Ben, j'étais complètement bourré de médicaments et je me sentais très bien. Malgré le fait que c'était un triple pontage une nouvelle valve mitrale, enfin bon, voilà, la grosse opération. Et puis, bon, ça a continué. Normalement, je devais partir à une maison de convalescence, à Salzbourg. Je dis non, parce que mon platé de Rameau va être présenté, il faut absolument que je sois là. Donc, c'était convenu. Ils étaient tous des mélomanes dans cet hôpital. Fait que je reste dans un appartement avec quelqu'un qui venait me soigner. Quand j'ai été à l'opéra comique, c'était tout de suite après.
Revenant.
Et d'ailleurs, c'est extravagant, c'est que non seulement tout était payé par mon assurance, par le fait que j'étais français. Et donc, oui. Mais j'ai. En arrivant en France, j'avais une lettre d'introduction à un grand personnage dans le monde de la médecine en France, chef d'un service à la Salpêtrière, le professeur Le Prince, qui m'a pris comme ça, comme si j'étais effectivement, voilà. Puisque, en effet, l'équipe de Vienne, ce sont les meilleurs amis, enfin, n'est-ce pas, enfin, les meilleurs spécialistes partout dans le monde. Voilà, donc, mais l'histoire continue. Non seulement, j'étais donc reconnaissant et du fait que j'étais très bien soigné, ce que je disais à l'Opéra Comique, mais à ma stupéfaction, un an après, je reçois un mail d'André Zuckerman, donc mon chirurgien viennois, en me disant, vous vous rappelez peut-être, tu te rappelles, on s'est tutoyé, une jeune assistante qui était présente pendant que j'étais opéré. Une jeune iranienne. Nous sommes tombés amoureux, l'un et l'autre. Et on va se marier. Est-ce que tu veux être témoin? Ça continue. Car en effet, ils sont depuis 3 ans à mon festival. Ils ont maintenant un petit garçon. Voilà. Chose extraordinaire, n'est-ce pas? Voilà.
Alors nous avons la chance, William Christie, d'être chez vous, quelque part dans le Marais, à Paris. L'horloge dans un très bel appartement, très calme. L'horloge vient de sonner les 4 coups. Et juste à côté de l'horloge, il y a votre instrument de musique. Dans cette émission, on passe le choix musical de l'invité. Mais si vous vous mettiez devant votre instrument de musique...
J'ai pensé à cela, mais le gros problème, c'est que l'instrument n'est pas accordé. Je suis arrivé hier soir et ce serait tragique.
Tragique.
Non, tout simplement parce que l'instrument n'a pas été accordé depuis plusieurs semaines.
Alors, que voudriez-vous écouter?
Mais pas forcément quelque chose de moi.
On a commencé par Aretha Franklin. Pas Lully, ni Rameau, ni Couperin, ni Handel, ni...
Si c'était quelque chose que moi, j'ai réalisé moi-même, ou ça peut être, par exemple, un enregistrement comme le Gesualdo que j'ai fait il y a très longtemps, avec maintenant des gens célèbres, mais à l'époque, ils étaient un petit moins. Madame Stutzmann qui chantait la ligne d'alto. Oui. Sinon, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Un peu d'Endel, un Assis et Galatée, peut-être.
Woo!
Comment se partage votre temps? Est-ce que vous vous réveillez en musique? Est-ce que vous rêvez de musique? Et comment, si vous en rêvez?
J'ai toutes sortes de rêves de musicaux, mais toutes sortes. Le rêve obsessionnel, musique à répétition, une phrase, n'est-ce pas, que je ne peux pas, n'est-ce pas, lâcher, un morceau comme ça. La musique imaginaire que je n'aurais pas, que je ne pourrais peut-être identifier, mais quelque chose qui me plaît beaucoup. Ça, c'est un rêve euphorique en quelque sorte, oui. Est-ce que c'est baroque? Non, parfois j'aurais du mal à faire identifier, mais quelque chose qui me donne beaucoup de plaisir. Ou, par exemple, je me souviens que j'ai entendu un concert de Mozart il y a quelques années. Et c'était pas une. Oui, c'était un rêve, mais plutôt une sorte de rêverie l'après-midi, n'est-ce pas, où j'ai refait ce concert, mais.
Dans votre tête.
À ma façon.
C'est-à-dire.
Où le concert m'a pas. Enfin, j'ai trouvé ça assez minable. Un orchestre qui tuait Mozart et le chef Bourreau était un célèbre chef. Concert à la salle Pleyel. Donc j'ai refait tout simplement le concert.
Dans votre tête.
Oui, comme ça.
Pendant que le concert se déroulait.
Oh, ben, ça commençait même pendant le concert. Oui. Mais difficile, parce que d'écouter, et non, c'était surtout un rêve ou des rêves, n'est-ce pas, fait que j'avais consécutivement, n'est-ce pas, suite à ce concert. Pas très gentil de raconter ça.
Mais vous êtes drôle, hein. Et
ça.
Quand vous évoquez cette musique imaginaire, c'est une musique qui aurait quelle tessiture?
Parfois c'est vocal, parfois c'est moi qui joue un instrument que j'ai jamais joué de ma vie, c'est, oui, oui.
Voilà. Pourquoi n'avez-vous jamais composé, William Christie?
Parce que je n'avais pas d'attirance pour non. J'improvise beaucoup, puisque en effet, un continuiste, quelqu'un qui joue un accompagnement baroque en utilisant une simple basse chiffrée, mais nous sommes obligés d'inventer.
Remplissez les trous, vous inventez une nouvelle matière sonore.
Ben exactement cela. Cette semaine à la campagne, j'étais avec Justin Taylor, son père est américain, et on a fait des trucs pour les pièces pour deux clavecins, mais qui sont tout simplement une suggestion. Et il faut vraiment que l'interprète fasse le reste. C'est comme si, par exemple, un concerto de piano de Mozart, il n'y avait qu'une main. C'était aussi flagrant que ça. Et on s'est amusé comme de fous. Parce que c'est pas une composition, mais c'est un art d'inventer, de créer. Voilà.
On vous sait très attentif, et ce depuis très longtemps, à la notion de répertoire, évidemment aux partitions. Vous avez un travail d'orfèvre vis-à-vis des partitions.
Nous sommes assez soignés.
Plus que soignés. Oui. Et en même temps, moi j'ai l'impression, quand j'écoute votre travail, ou quand on discute avec des musiciens qui ont la chance de travailler avec vous, que pour vous, cette musique-là, elle est vivante, c'est-à-dire... Il y a à la fois un grand respect du patrimoine, mais en même temps, on a l'impression qu'elle est là. Elle est là en train de battre, en train de vivre.
Mais ça, c'est de montrer qu'une musique est difficile, qui demande, n'est-ce pas, du sueur, de l'angoisse, la torture, n'est-ce pas, physique. Ça, c'est épouvantable. Il y a des gens qui aiment ça, c'est vrai. Hein. Mais moi, j'adore montrer d'abord le plaisir que l'interprète... éprouve tout simplement en jouant, surtout pour son public. Et le fait aussi fait que les choses, même les plus difficiles, semblent faciles, en quelque sorte. C'est bien de voir un pianiste qui se torture en jouant une étude transcendantale de Liszt, mais ce n'est pas tout à fait ma cup of tea. Je n'aime pas visuellement, n'est-ce pas, avoir fait espèce de pauvre animal, n'est-ce pas, dans ma vision, en train de... Voilà.
C'est pas la connaissance ou la performance qui vous intéresse.
Mais oui, c'est ça. Mais là, C'est vrai qu'on travaille beaucoup pour que ça soit, que ça paraisse justement pas facile, mais que le geste soit bien, n'est-ce pas? Cette année, rigueur pendant la préparation pour que ça ne se monte pas pendant l'exécution. J'adore les moments où, aussi, enfin, de complicité, que la joie enfin, que nous éprouvons, n'est-ce pas, que nous, en faisant de la musique, soit, n'est-ce pas, vue et ressentie par le public. C'est très important pour moi.
Mais quand vous produisez le son de cette musique qui date d'un passé assez lointain, est-ce que vous vous mettez dans la tête et dans le cœur l'idée qu'il y a une temporalité qui appartenait à ce temps passé et qu'il faut que vous la restituiez
non,
ou alors
non,
vous
non,
êtes
non,
là
non,
aujourd'hui dans
non,
le temps
je
présent?
Je crois que la musique, une fois fait que cette musique puisse être ressuscitée par l'interprète, parce que la musique, elle n'a pas d'âge. Voyons, enfin, Brahms, n'est-ce pas, meurt il y a déjà 100 ans, un peu plus. Sa musique est en quelque sorte la musique ancienne. Mais si on joue ça comme une musique, n'est-ce pas, enfin, qui sort de, enfin, n'est-ce pas, d'une vitrine d'un musée, enfin, non, enfin, c'est, ça se sent. Et de vouloir me dire, mais notre musique est tellement ancienne, il va falloir, enfin, n'est-ce pas, oui, les explications, les indulgences. Oui, non, cette musique, pour moi, a une éloquence, n'est-ce pas, qui n'a pas d'âge. Si on respecte la musique, est-ce qu'un tableau, par exemple, fait de Caravage, ou un tableau fait de, fait, je ne sais pas, de... Oh, l'autre jour, j'ai vu un tableau émouvant enfin, de Simon Vouet chez Cornette Saint-Cyr. Et ce tableau n'a pas de rides. C'est très simple pour moi. Un petit masque fait en obsidien ou en jade, précolombien. Mais oh, c'est... Ce morceau, enfin, n'est-ce pas, bon, voilà, tu parles. La musique, c'est pareil. Je crois que ça, c'est parmi les choses que nous avons pu faire, enfin, de rendre cette musique intemporelle. Que cette musique parle comme si elle était tout simplement créée pour nous. C'est ça qui est important. Et le problème avec nos prédécesseurs, et surtout en France, en Allemagne, où la tradition, cette accumulation de traditions, et aussi l'évolution, la musique, n'est-ce pas, fait 18e pas mal, la musique début 19e un peu mieux, la musique milieu 19e pas mal, donc encore mieux. Voilà, ça veut dire que quand on arrive, par exemple, un pianiste ou un chef, qui est habitué de diriger, je ne sais pas, Debussy ou Ravel ou Massenet, quand ils attaquent effectivement, ou quand ils attaquaient une musique antérieure, Rameau ou Couperin, ben, ils voulaient que ça sonne comme la musique qu'il aimait vraiment, c'est-à-dire Massenet ou Debussy, même technique, mêmes instruments, voilà. C'est à ce moment-là que cette musique commence à sentir poussiéreuse, vieille, n'est-ce pas? Ça, c'est une chose très importante, très importante.
C'est-à-dire donner des émotions à la musique que vous nous permettez d'entendre.
De donner tout simplement les émotions enfin, que demande la musique enfin, pour être éloquente, justement. Voilà.
Et là, ça, c'est un acte délibéré, artistique de votre part.
C'est une conséquence de la spécialisation.
Et de la pratique.
Oui, c'est ça.
C'est une manière de faire de la musique.
Absolument. Absolument. Est-ce que nous pouvons, pour même un instant, aller à Berlin, comme on faisait dans le bon vieux temps, il y a 50 ans, pour écouter Herbert von Karajan en train de mutiler Jean-Sébastien Bach, avec un orchestre qui était beaucoup plus adapté pour Mahler ou Brahms. Lui, entronné devant un horrible clavecin, il faisait clonk, clonk, clonk. Et voilà. Ben non. Le problème, c'est que Bach, pour lui, était potable, disons présentable, fait ça sonner un tout petit peu comme Brahms ou Mahler, tout simplement. Pourquoi changer une technique ou les instruments, oui. Aujourd'hui, ce serait impossible. Parce que cette musique, là, il a donné le coup de grâce à une musique qui ne pouvait pas supporter cela.
Et vous avez dit tout à l'heure que la musique était atemporelle, qu'elle était éternelle, et que vous, votre but, c'était de la restituer dans son essence même.
Mais c'est ça.
Mais en même temps, il y a des moyens et des âges et des modes d'écoute de la musique.
Oui, oui et non. Je crois que, dans un sens, nous avons maintenant pu convaincre les gens qui écoutaient Karajan, n'est-ce pas, dans le bon vieux temps. On a pu les convaincre en disant, voilà, nous, avec d'autres outils, les instruments anciens, que connaissaient les compositeurs, avec peut-être les références à cette façon de jouer et chanter, fait que, bon, on n'a pas d'enregistrement, donc on ne peut pas être 100% sûr, mais en suivant tout simplement les manuels, les traités, les machins, nous pouvons curieusement libérer cette musique.
Et libérer un imaginaire aussi dans notre tête en écoutant cette musique.
Évidemment. Ce qui est extraordinaire en France en ce moment, malgré la médiocrité de cette société française, j'utilise le mot.
Mais pourquoi vous dites qu'elle est médiocre, notre société? Vous êtes si fier d'être citoyen français.
Je dis, il y a beaucoup ce qui est médiocre, n'est-ce pas, en France, et mélangé aussi avec une morosité qui est franchement un tout petit peu...
Vous nous trouvez fatigués.
Je trouve que la France est parfois fatigante. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que nous vivons une sorte de renaissance, de moment, je dirais, de grâce musicalement avec les jeunes Français. Et dans certains domaines de l'art, c'est absolument extraordinaire. Où il n'y a pas de médiocrité, il n'y a pas de morosité, il y a tout simplement les jeunes... Je parle de ma spécialité, la musique ancienne. Moi, j'aurais jamais imaginé 40 ans, n'est-ce pas, cette évolution vers une sorte de brillance qu'on vit en ce moment. Nous exportons ces jeunes gens, ces jeunes chanteurs, les jeunes organistes, les jeunes clavecinistes et les violonistes.
C'est parce que vous avez mis une énergie considérable, William Christie, à être pédagogue et à former les jeunes talents. Parce que vous croyez en la jeunesse.
Peut-être, mais j'ai participé. Mais c'est ce qui me donne un petit peu d'espoir, n'est-ce pas, de vivre en France en ce moment avec ces problèmes de haine à la française. Et ce pays a développé une haine collective qui est bien française.
Vous voulez dire une haine envers nous-mêmes?
Envers soi-même, envers tout, n'est-ce pas? Mais en dépit de cela, le fait aussi fait qu'on ne sait pas où nous allons. Mais il y a le génie français, tout simplement quelque chose que... Oh là là, de vivre ce que je vis maintenant avec ce jeune élément dans mon orchestre, dans mon cœur, chez les solistes, je peux vous dire, je suis un homme très heureux. Et ça a un rapport directement avec ce que nous discutons en ce moment. Comment cette musique est rendue éloquente. Pourquoi nous avons ce public qui nous aime tant? Pourquoi nous avons cette collection de jeunes interprètes, n'est-ce pas, qui font des prodiges en ce moment? C'est ça qui est merveilleux.
Alors vous, William Christie, qui avez tant contribué, ce fut un combat ardu, tant sur le plan intellectuel et même philosophique, je parle même pas du plan musical et du plan artistique, à contribuer à ressusciter le répertoire du baroque, vous avez réussi, mais n'est-ce pas finalement un piège? Parce que maintenant, le baroque est tellement à la mode qu'il risque d'être peut-être un peu déprécié ou mal interprété. Voyez, est-ce que vous n'êtes pas l'artisan de votre propre...
Non. Ça, c'est de voir les choses avec un mauvais œil. Évidemment, en fait, dans tout mouvement, enfin, qui connaît un petit peu de succès, il y a des gens, enfin, n'est-ce pas, qui s'accrochent. Voilà. Et pour profiter, on les connaît. Mais moi, je parle d'un phénomène beaucoup plus intéressant et plus positif, c'est ça, enfin, le côté positif. Ce qui est positif, c'est dans ce pays où il y avait une pauvreté de musique dite ancienne, il y a 40-50 ans, ben, nous avons peut-être quelques centaines d'ensembles professionnels qui sont là pour dénicher, faire découvrir... ébloui par la virtuosité de cette musique. Je crois que l'âge moyen, avec ces jeunes gens avec qui je me suis trouvé cette semaine, c'est 25 ans. Pas mal, moi qui ai 75 maintenant. Et je crois qu'à sur Paris, combien d'ensembles, n'est-ce pas, s'affichent comme spécialistes de musique, disons, ancienne. Une trentaine ? Sans exagérer. Attends, c'est bien, c'est merveilleux. Donc, je ne suis pas du tout inquiet qu'on a lancé une sorte de, comment dirais-je, de phénomène qui va se, tout simplement disparaître, puisque, comme beaucoup de choses, qui devient trop. Oui.
Alors trop là, connu, nous. Oui, l'avenir est assuré.
Jamais assuré, mais pour le moment, dans un vaste mer de mécontentement, nous sommes un phénomène positif, énergique, sans morosité.
Avec joie.
Il y a une, je crois que le mot est je n'osais pas le dire, mais je crois, un phénomène joyeux.
Alors là, nous avons la chance d'être avec vous aujourd'hui. Vous allez repartir pour New York, à la fois pour enseigner à la Juilliard et à la fois pour donner des concerts. Mais pouvez-vous nous dire avec qui vous allez parcourir ce qu'on appelle la France profonde cet été ?
Mais d'abord, mon propre ensemble, des arts florissants. Nous avons le grand projet qui va nous occuper, pendant presque tout le mois d'août. C'est la préparation d'un opéra de jeunesse de Mozart, La Finta Giardiniera, pour notre jardin des voix. Cette année, c'est pour la deuxième année, le jardin, qui autrefois était un phénomène canet et la basse Normandie, et maintenant un phénomène de William Christie, sa maison, son jardin, et le festival qui se déroule tous les ans chez moi à la campagne. Donc nous avons six lauréats qui correspondent aux six rôles de cet opéra. Il y a un Français, il y a un Italien, il y a un Serbe, il y a un Allemand, il y a un Anglais. Enfin, comme d'habitude, c'est l'ONU musicale qui se trouve réunie chez moi. Et puis, cet opéra travaillé pendant trois bonnes semaines chez moi. Va être présenté le premier week-end pour notre festival fin août. Et ça démarre une longue tournée un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est le mois d'août. Le mois de juillet, un peu plus calme, mais avec quelques jeunes ensembles dans les endroits variés, assez loin de Paris. Un festival près de Limoges. Moi, je suis ensuite, je crois, en Espagne et à New York aussi, de nouveau. Voilà.
Vous semblez heureux, je me trompe ?
Mais c'est parce que vous êtes là, d'abord. Et toi, on se connaît depuis si longtemps. Donc, c'est un moment aussi où on peut faire une sorte de... Oui, une récapitulation. Je ne suis pas mécontent. La vie est très remplie en ce moment, parce que...
Vous avez une vie de jeune homme.
Vous pouvez imaginer aussi qu'une nouvelle fondation a besoin de beaucoup. Non seulement de faire les gens, pour alimenter le côté intellectuel et musical et tout cela, et tout ce qui est attendant, l'organisation, la logistique, mais il y a des questions purement pécuniaires. Je ne cache pas que je vais à New York, pour des choses assez nobles, musique, l'enseignement, mais je vais aussi pour faire la manche. En effet, je vais rentrer pour un concert, toute une soirée de gala qui aura lieu dans un jardin célèbre ici, qui est le jardin de Giverny. Et cette soirée de gala, c'est très simple, c'est un fundraising event. Oui. C'est préoccupant. Alors, est-ce que ça, c'est la joie? Est-ce que ça me rend euphorique et... le résultat, parfois, n'est-ce pas? Mais non. Je vous avoue aussi que je viens de quitter mon jardin, ma maison. Et comme vous savez...
Vous avez bêché ce matin?
Non, mais j'ai pêché les fonds, en quelque sorte. Car le week-end dernier, c'est le week-end de portes ouvertes dans les jardins. Et on a eu quelques centaines de visiteurs qui sont venus pour admirer le jardin, pour flâner dans mon jardin. Ça aussi, c'est joyeux. Et je suis rentré assez content de moi-même hier soir, dans le train, en disant, d'abord, le jardin, c'est vrai, il était très, très beau. Les roses étaient absolument magnifiques. Les commentaires étaient très bien. Les gens étaient très heureux de pouvoir passer quelques moments. Et pour moi, c'est un partage aussi. Voilà. Des petits moments dans la vie où... voilà.
Merci infiniment, William Christie. C'était Saying Goodbye de J.S. Ondara. Merci à Laurent Lucas qui était à la technique ce soir, à Jean-Baptiste Audibert, à Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et à Pierre Dindy. Lilian Allôme a réalisé cette émission et comme chaque vendredi soir, vous avez rendez-vous avec Didier Varro pour ça, notre foule sentimentale.